Et la question qu'on vous posait hier concerne l'OTAN et d'après vous, la Turquie va-t-elle enlever son veto contre l'entrée de la Suède? Vous le savez, c'est une question qui fait débat. Alors Lise, à l'heure actuelle, où en est-on? Qu'en pensent nos auditeurs? La Turquie va-t-elle lever son veto ou non?
Alors, sur Instagram, nos auditeurs sont mitigés. 46% de oui pour 54% de non. Sur Facebook, moins mitigés. Une grosse majorité de oui. 88% de oui pour seulement 12% de non. Je les trouve assez optimistes aujourd'hui sur Facebook. Et sur Twitter, à l'instant, je vais vous dire, sur Twitter, on est à 50-50 exactement.
Eh bien, dites-moi, voilà un avis partagé. On va voir ce qu'en pense notre invité que vous avez eu l'occasion, avec lequel vous avez eu l'occasion de vous entretenir, c'était hier, on va être transparent. Il s'agit de Rémi Daniel, un des plus grands spécialistes de la Turquie. On vous écoute.
Rémi Daniel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Alors Rémi, parmi les 31 États membres de l'OTAN, seuls la Turquie et la Hongrie n'ont pas encore ratifié l'adhésion de la Suède. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde la semaine dernière en disant que la Turquie ne satisferait pas nécessairement les attentes de la Suède. Alors, est-ce que la Turquie va, oui ou non, enlever son veto contre l'entrée de la Suède dans l'OTAN ?
Cela va prendre visiblement un certain temps et ça ne va pas avoir lieu avant le prochain sommet de l'OTAN qui avait été défini par certains comme l'étape qui permettrait l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Le problème entre la Turquie et la Suède, c'est la présence en Suède de représentants des mouvements kurdes que la Turquie voit comme terroristes. Mmh. C'est aussi le problème de la liberté d'action qu'il aurait laissé en Suède. On a vu le gouvernement suédois faire quelques gestes symboliques contre ces activistes kurdes, mais jusqu'ici, Erdogan a dit que cela ne suffisait pas, et c'est pour ça que la situation reste bloquée pour le moment.
Alors quand même, Rémi, symbolique, je ne sais pas si c'est seulement symbolique, la Suède a fait entrer en vigueur une nouvelle loi antiterroriste, levé l'embargo des armes sur la Turquie et annoncé la première extradition d'un partisan du PKK. Donc, du point de vue de la Suède, en tout cas c'est ce qu'a dit le Premier ministre suédois, nous avons rempli nos engagements. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus pour convaincre Erdogan ?
Vous avez raison de dire que les Suédois ont vraiment l'impression d'avoir fait assez, presque plus qu'assez. Erdogan est assez dérangé par les manifestations pro-PKK, donc pro-mouvement terroriste kurde qui ont lieu régulièrement en Suède et qui vont être difficiles à interdire puisque la Suède est très sensible à la liberté d'expression. Mmh. C'est pour l'instant un point de friction très important dans un contexte où la Turquie, après les élections de mai dernier, est dans une atmosphère politique très marquée par le nationalisme, n'a pas de raison de politique intérieure d'être plus souple sur la question kurde, et c'est ça qui crée le blocage que nous voyons aujourd'hui.
Alors, le gouvernement suédois a donc décidé d'extrader un ressortissant turc. Il était condamné à plus de 4 ans de prison après avoir été accusé d'avoir transporté 1,8 kg de cannabis. Mais lui, il soutient que la véritable raison de la demande d'Ankara, c'est qu'il soutient le PKK et les unités de protection du peuple. Est-ce que c'est vrai, Rémi Daniel ?
Je pense que ce cas, qui est d'abord assez pratique pour la Suède, puisqu'elle ne condamne pas la personne en raison de ses idéaux politiques, mais en raison d'un crime et dans la loi suédoise. Mais ce cas, plus généralement, montre bien la complexité de ce qu'est le PKK, notamment en Europe. On le sait, cette organisation se finance aussi par le trafic de drogue, notamment en Europe, et c'est ça qui crée une espèce de flou avec des personnes qui se présentent comme des activistes mais qui sont liées au trafic de drogue en Europe et qui permettent donc, par exemple, à la justice suédoise d'extrader cette personnalité pour des raisons de crime et pas pour des raisons politiques. Mais c'est lié à la structure même du PKK qui est impliquée dans le trafic de drogue en Europe depuis au moins les années 90.
Alors, par contre, pour ce qui concerne les autres et notamment les manifestations, bon, d'abord, vous l'avez dit, les manifestations, elles vont pas être interdites parce que c'est pas la culture suédoise, on va dire, de mettre des limites à la liberté d'expression. Et d'un autre côté, sur ce qui est les partisans du PKK en eux-mêmes, il faudrait que ça soit les tribunaux qui décident de les extrader. Et jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement suédois ne décide pas à la place des tribunaux suédois.
C'est en effet la complexité de la situation où nous avons là un bon exemple de lien entre politique étrangère et politique intérieure qui est difficile. Erdogan considère que les tribunaux ne font qu'appliquer la loi et donc si le gouvernement veut agir, il n'a qu'à changer la loi. Mais en effet, cela met le gouvernement suédois dans une situation très délicate face à une situation qu'il ne contrôle pas totalement, avec des pressions de l'intérieur qui sont contraires aux pressions qu'il reçoit de la Turquie.
Et plus le fait, Rémi, que de nombreux Suédois sont quand même opposés à l'idée de voir leur pays, ce qu'ils appellent compromettre ses valeurs ou courber les chines devant la Turquie pour rentrer dans l'OTAN.
L'opinion publique suédoise n'est pas mon domaine de spécialité, mais ce qui est sûr, c'est que on est là avec une décision qui est d'un côté les valeurs et de l'autre de la réelle politique. On est quand même en contexte de guerre en Ukraine. Pour la Suède, rejoindre l'OTAN sera un gage de sécurité très important dans ce contexte particulièrement tendu pour un pays relativement proche de la Russie. Mmh. Et là, le gouvernement suédois est donc pris entre des valeurs très fortes dans sa société et des raisons de réelle politique qui le poussent à renoncer, ne serait-ce que partiellement, à ses valeurs.
Alors, on est à un peu moins d'un mois de la décision, puisque le prochain sommet de l'OTAN, c'est les 11 et 12 juillet prochains à Vilnius, en Lituanie. Est-ce que Erdogan va continuer à faire monter la pression?
Pour l'instant, Erdogan a déjà annoncé que considérer que la solution serait réglée d'ici le sommet de Vilnius n'est pas très raisonnable et que visiblement cela prendrait un peu plus de temps que cela. Donc le prochain mois, la politique étrangère turque nous a habitués à des surprises. Donc une surprise n'est pas totalement à exclure, mais à part surprise, la plupart des observateurs s'attendent à voir le sommet de Vilnius se terminer sans décision sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN, ce qui serait une déception pour beaucoup de partenaires de l'OTAN et beaucoup de membres de l'OTAN.
Eh oui. Alors justement, la Turquie et la Hongrie sont les deux seuls pays qui n'ont pas ratifié ça. Et quelque chose qui peut peut-être influer sur ce débat, vous allez nous dire, Rémi Daniel, la Turquie a été exclue du programme d'avions de combat furtif américain, les F-35. C'était par représailles après l'achat par Ankara d'un système antimissile russe S-400. Et selon la presse turque, il serait question maintenant que Washington accepte de livrer des nouveaux F-16 à la Turquie et des pièces pour les avions de chasse américains que la Turquie a déjà. Et ça, c'est un aspect très important des négociations qui sont en cours entre les États-Unis et Erdogan. Est-ce que les États-Unis peuvent se mêler de cette histoire de l'OTAN et aussi mettre leur grain de sel par rapport à la Suède?
Il est clair que dans tout ce qui est lié à l'OTAN, les États-Unis ont un rôle important à jouer puisque c'est le membre le plus important et de loin de l'Alliance. Il est clair aussi que notamment lorsque Erdogan s'opposait à l'entrée aussi de la Finlande, qui a moins de problèmes avec la Turquie, le président turc pense aussi aux relations avec les Américains. Il essaye de jouer ses cartes en liant la question de l'OTAN et des nouveaux membres à celle de la modernisation de l'aviation turque, qui est un sujet très sensible pour les Turcs ces dernières années. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, le processus est un petit peu compliqué du point de vue de la politique intérieure américaine, où le président Biden semble prêt à faire tout ce que vous avez dit pour la modernisation de l'aviation turque, mais cela doit passer par un vote du Congrès, et dans le Congrès américain aujourd'hui, les soutiens des Turcs ne sont pas majoritaire et cela crée un autre problème en plus de tous les problèmes que nous avons mentionnés.
Ma dernière question, Rémi Daniel, troisième mandat pour Erdogan qui vient donc d'être réélu et la Turquie est revenue sur le devant de la scène internationale depuis 2022. Qu'est-ce qu'on attend pour ce troisième mandat en termes de diplomatie internationale?
A priori, Erdogan a, lorsqu'il a notamment nommé son gouvernement, montré deux choses. Un, il reste en contrôle et deux, il a nommé beaucoup de technocrates, donc peut-être un retour général au pragmatisme qu'on a vu en fait en Turquie depuis 2022, puis même depuis 2020. On a donc un pays qui va continuer à essayer de sortir de son isolement, d'améliorer ses relations, notamment avec ses voisins. Par contre, on a quand même une ombre au tableau qui est cette complexité des relations entre la Turquie et l'Occident, et notamment la Turquie et les Américains, qui pourrait conduire à une réaction un peu excessive d'Ankara. Mais pour l'instant, tous les signes qu'envoie le président turc réélu pour une troisième fois, c'est une espèce de recherche d'équilibre et de ton peut-être plus modéré que ce qu'on a vu les dernières années.
Et alors, je reviens juste là-dessus, Rémi. La Russie, la Chine, la Turquie, la Syrie, l'Iran, c'est ça le nouveau bloc euro-asiatique contre l'Occident, entre guillemets ?
Je n'irai pas si loin, parce que clairement, la Turquie d'abord est membre de l'OTAN et se présente toujours comme un membre de l'OTAN. Mmh. La Turquie, sur la guerre en Ukraine, a certes une position beaucoup plus ambiguë que d'autres pays européens, mais elle reste un soutien modéré de l'Ukraine. Il y a des tensions qui existent entre la Turquie et l'Iran qui empêchent de considérer que ces deux pays fassent partie d'un même bloc. Mmh. Par contre, c'est vrai, face à des tensions avec l'Europe, face à des tensions avec les États-Unis, la Turquie menace ou sous-entend qu'elle pourrait se rapprocher d'autres pays comme la Chine, qui a déjà soutenu la Turquie économiquement, ou comme la Russie. Il faut voir, c'est aussi un jeu précis que les Occidentaux vont devoir jouer avec la Turquie pour éviter de pousser Ankara vers ce bloc que vous décrivez, qui pour l'instant n'existe pas encore.
D'accord. Merci beaucoup Rémi Daniel pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Bonne journée à vous.
Bonne journée.